Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Herner.
C'est probablement l'exposition de la décennie, un événement artistique majeur. Le musée du Louvre présente près de 180 œuvres de Léonard de Vinci dans une exposition absolument magnifique. Et nous sommes en compagnie des deux commissaires de l'exposition, Vincent Delieuvin et Louis Franck. Bonjour à tous les deux. On dit qu'il a fallu de la folie pour réunir ces œuvres. Qu'est-ce que ça signifie, Vincent Delieuvin ? En quoi consistait votre folie à tous les deux ?
Alors, folie et aussi beaucoup de sang-froid, parce que effectivement, quand on s'attaque à Léonard de Vinci, il faut avoir les épaules solides pour pouvoir mener un projet de cette ambition. Léonard de Vinci, c'est un mythe. Chaque institution qui possède une peinture ou un dessin de Léonard de Vinci ne veut pas s'en dessaisir. Et donc, lorsqu'on les demande en prêt, eh bien, on est souvent face à une première opposition. Donc, ils font beaucoup de conviction pour pouvoir charmer, on va dire, nos collègues et les inciter à nous prêter des œuvres de Léonard de Vinci. Mais après ces années de préparation, c'est un grand succès parce que pour la première fois, nous offrons au public la plus grande rétrospective jamais organisée, le plus grand nombre de tableaux de Léonard de Vinci réunis, 11, c'est-à-dire plus de la moitié de l'œuvre peinte de Léonard de Vinci, et un choix de dessin absolument sublime, et ses dessins scientifiques aussi.
Et oui, c'est-à-dire qu'il a fallu près de 10 ans pour fabriquer cette exposition. C'est un peu comme la comète de Halley. Et il est probable qu'on n'en reverra pas une semblable, Vincent Delieuvin.
En fait, seul le musée du Louvre est capable de pouvoir organiser une telle exposition parce que nous sommes les héritiers directs de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci est mort en France en 1519, il y a 500 ans. Il nous a laissé 5 de ses tableaux dans nos collections, des dessins, les carnets scientifiques de l'Institut de France. Donc effectivement, on a déjà la matière qui permet d'organiser cette réunion spectaculaire des œuvres de Léonard de Vinci.
Alors, on ne voit pas la Joconde parce qu'elle est à sa place habituelle, Louis Franck. En revanche, on voit d'autres choses. On voit la Seine, on voit l'homme de Vitruve. On voit, présentez-nous peut-être quelques-unes des œuvres qu'on va pouvoir contempler au musée du Louvre.
On voit effectivement, non pas la Seine, mais une copie de la Seine. Vous savez que la Seine, Léonard a eu, étant relativement peu doué pour la fresque, qui est une technique qui exige beaucoup de rapidité, utilisait des techniques alternatives qui n'ont pas tenu sur les murs, et donc la scène s'est dégradée très tôt. Et on la connaît par des copies, et notamment celle-ci, qui est la plus ancienne de toutes, la plus vénérable, puisqu'elle a été réalisée à Milan en 1506, alors que Léonard était évidemment vivant, mais il était à Milan à cette époque-là. L'homme de Vitruve, effectivement, qui est une icône, et que nous avons accroché samedi, in extremis.
Alors c'est un croquis, il est de dimension d'un croquis, c'est-à-dire une feuille de papier A4, enfin, vous avez probablement mieux les dimensions en tête que moi, mais c'est probablement le dessin le plus célèbre au monde, Louis Franck.
Oui, c'est le dessin le plus célèbre au monde, c'est une étude de proportion, qui est une illustration du traité d'architecture de Vitruve, le grand théoricien romain de l'architecture. C'est un dessin évidemment merveilleux, mais il ne faut pas oublier que nous en avons d'autres dans l'exposition qui sont des icônes du même ordre. Il y a la petite étude du Codex Leicester qui représente la lumière cendrée de la Lune. Puis il y a le merveilleux dessin de la Bibliothèque royale de Turin, qui est une étude de jeune femme qui se retourne et qui prépare l'archange de la Vierge au rocher.
Et lorsque l'on découvre cet homme, Léonard de Vinci, il y a dans la biographie, dans le destin de cet être qui a été un immense touche-à-tout, une lettre que j'ai trouvée particulièrement émouvante, qu'il a envoyée à l'âge de 30 ans au duc de Milan. Il cherchait du travail et il expliquait au duc de Milan pourquoi celui-ci devait l'engager. Et il lui dit tout ce qu'il peut faire. Alors il dit, voilà, je peux concevoir des ponts, des voies navigables, des canons, des véhicules blindés, des bâtiments publics. Et puis tout à la fin, il dit, de même, en peinture, mon œuvre peut égaler celle de n'importe qui. Ça signifie, Vincent Delieuvin, que finalement, être peintre, c'était quasiment un hobby pour lui ?
Alors effectivement, cette lettre est souvent citée pour dire que Léonard de Vinci ne s'intéressait pas tant que ça à la peinture parce qu'elle vient à la fin de cette grande présentation, de sorte de curriculum vitae de Léonard de Vinci. Mais en réalité, lorsqu'on relit l'œuvre de Léonard de Vinci, lorsqu'on tout simplement on observe sa vie, on se rend compte que la peinture a toujours été au cœur de ses préoccupations et au cœur de ses centres d'intérêt. Mais là, effectivement, à 30 ans, il se situe à un moment particulier de son existence. Il veut se mettre au service d'un grand prince, le duc de Milan, pour lequel effectivement les activités militaires sont sans doute doute plus importante que les activités du peintre. Mais Léonard, à ce moment-là, à 30 ans, veut devenir un artiste universel. Finalement, qu'est-ce qu'il se passera ? Il ne deviendra jamais un grand ingénieur, ni un grand architecte, ni un grand sculpteur. En revanche, il restera ce qu'il a été depuis le début, c'est-à-dire le plus grand des peintres de son temps.
Comment explique-t-on néanmoins cette modestie ? Est-ce que ça veut dire qu'à l'époque, être peintre, ça n'est pas une identité sociale très précise ?
Effectivement, on se situe à une période de transition. Le statut de peintre deviendra de plus en plus glorieux. Et cela grâce au pinceau de Léonard de Vinci et à sa plume. Léonard va défendre à travers ses œuvres, mais aussi à travers ses écrits, la noblesse de la peinture. Et même, il va la définir comme une science suprême, une science divine, supérieure à toutes les autres sciences. Léonard, la vie Léonard de Vinci est une démonstration pour justement faire de la peinture un art qui égale et même qui dépasse la poésie, la géométrie, les mathématiques. Et je crois que Léonard est parvenu justement à affirmer cette supériorité, en tout cas cette égalité de la peinture qui jusqu'à présent était considérée comme une activité pas aussi importante que la peinture, que la poésie.
Et alors, pour autant, lorsqu'il peint par exemple la Seine, il est déjà célèbre, on vient le voir, c'est quelqu'un d'un peu fantasque, c'est-à-dire ou bien il travaille du matin au soir, ou bien il reste contemplatif, il a incarné le peintre avec un certain nombre de méthodes révolutionnaires, Vincent de Liévin.
Alors effectivement, au moment de la Seine, c'est vraiment, ça va être le coup d'éclat de Léonard de Vinci. Il devient là, il s'affirme avec la Seine comme le grand génie de la Renaissance italienne. Et effectivement, c'est un artiste dont des sources décrivent les méthodes de travail un peu particulières, avec des phases d'inspiration où il ne fait pratiquement rien, et d'autres où au contraire, une fougue en quelque sorte créatrice le possède, et il travaille pendant des heures à la Seine. Mais effectivement, Léonard est un artiste en grande partie expérimental dans ses dessins et dans ses peintures. Et dans la Seine, il a mis au point une technique malheureusement catastrophique pour la conservation de la peinture. En travaillant à l'huile, Léonard a besoin de temps pour travailler, pour méditer ses idées, pour perfectionner son œuvre. Et ça mènera à la ruine de l'œuvre qui aujourd'hui est fantomatique. La Seine a disparu pratiquement.
Et à côté de la Seine, on trouve donc l'homme de Vitruve. La Seine, c'est 1495 et l'homme de Vitruve, c'est un peu antérieur. Pourquoi cet homme de Vitruve est-il si connu, Louis Franck ? Qu'a-t-il de particulier ?
Je vais laisser répondre Vincent à cette question.
Alors, l'homme de Vitruve, effectivement, c'est une icône un peu différente de celle de la Joconde. La Joconde, dès le vivant de Léonard de Vinci, est devenue et était une icône, vraiment. Alors que l'homme de Vitruve, il a fallu beaucoup plus de temps. C'est un dessin d'abord, et c'est vraiment à partir du XXe siècle, un moment où on redécouvre le Léonard scientifique, que cette image, par sa perfection et aussi par son caractère sans doute un peu mystérieux, cette figure d'homme qui a quatre jambes et quatre bras insérés dans les formes parfaites du cercle et du carré, devient en quelque sorte une image un peu qui révèle la quintessence des recherches à la fois scientifiques et en même temps philosophiques de Léonard de Vinci. Donc il a fallu plus de temps à ce dessin pour s'affirmer comme une image très forte, l'incarnation du génie de Léonard de Vinci. Puis il est vrai aussi, mais c'est un peu comme la Joconde d'une certaine façon, la publicité et la réutilisation de cette image par certaines, et notamment une grande entreprise, a joué aussi un petit peu pour la célébrité mondiale de l'image.
Alors on découvre que Léonard de Vinci avait des carnets, il griffonnait et puis il écrivait. Alors il disait par exemple ces descriptions du corps humain qui ont donné cet homme de Vitruve. Il expliquait notamment l'espace entre la naissance du sommet du nez, là où commencent les sourcils jusqu'au bas du menton, équivaut aux deux tiers du visage. La plus grande largeur du visage correspond à l'espace compris entre la bouche et la racine des cheveux et c'est le 12e de la hauteur totale. Il a inventer ses proportions, il les a reprises. Comment a-t-il travaillé là-dessus ?
Oui, non, il n'a pas du tout inventé les systèmes de proportions. Ce sont des systèmes qui remontent à des temps immémoriaux et qui ont fait l'objet de beaucoup de réflexions et de théorisations depuis l'Antiquité. Mais il est vrai que dans le cas de l'homme de Vitruve, les proportions qui étaient celles données par Vitruve lui-même,
qui était architecte, qui a posé un certain nombre de bases importantes là aussi dans l'esthétique.
Voilà, exactement. Ces proportions-là avaient quelque chose d'abstrait. Et Léonard, dans le cas de l'homme de Vitruve, a reconsidéré expérimentalement un certain nombre de ces proportions.
Et puis, désolé, il faut quand même qu'on en parle, la Joconde, Vincent de Lieuvin. Alors là, vous avez donné dans cette exposition une représentation en 3D avec des lunettes pour que l'on puisse voir comment a été composée la Joconde et quelles sont les spécificités de ce tableau. Par conséquent, il vous faut maintenant nous expliquer, Vincent de Lieuvin, pourquoi cette peinture, et en préparant cette émission, par exemple, on a regardé toutes les utilisations qui sont faites dans la pop culture, non pas chez Duchamp, parce que ça c'est connu, mais même très récemment, qu'est-ce qu'il y a de si spécifique dans ce tableau ?
Alors, ce portrait représente vraiment la quintessence de l'art de Léonard de Vinci. Il en était conscient, hein, de son vivant, et les contemporains aussi. Il représente vraiment la synthèse d'abord des travaux scientifiques, notamment de l'optique, les travaux de Léonard sur l'optique, avec la merveilleuse représentation du paysage et ses effets de perspective atmosphérique. Et puis, c'est aussi une extraordinaire image poétique de l'être humain, cette jeune femme qui se tourne vers nous, cette communication extraordinaire que Léonard imaginait à travers cette composition. Donc, la jeune femme est assise sur une chaise dans la loggia de sa villa et elle se tourne vers nous et nous fait ce merveilleux sourire d'accueil. Léonard de Vinci a pour ce tableau mis au point une technique picturale absolument extraordinaire, l'effet de sfumato, l'estompage des contours qui donne une vibration à la matière picturale et qui fait que les contemporains ont vu dans ce portrait non pas seulement l'imitation des formes extérieures de la nature mais pour la première fois un artiste était parvenu à donner de la vie à la matière picturale. La Joconde était vivante. Et aujourd'hui encore, vous allez me prendre peut-être pour un fou, mais aujourd'hui encore, malgré notre connaissance, on est habitué, la vidéo, les photographies, mais aujourd'hui encore, quand on sort la Joconde de sa vitrine chaque année, on a ces moments merveilleux où on la regarde face à face et elle est effectivement, ça bouge légèrement. Il y a cet effet de vie absolument extraordinaire.
On écoute une archive sur le déplacement de la Joconde.
À son arrivée à New York, les photographes n'ont pu admirer qu'une de ses reproductions, la Joconde ne devant pas quitter, comme on sait, sa caisse d'aluminium. Jamais passagère venue du vieux continent n'aura été entourée d'autant d'attention jalouse que Mona Lisa. On avait prévu un camion blindé et climatisé, escorté par 50 policiers. On prétend, il est vrai, que la toile de Léonard de Vinci vaut plus que le paquebot France qui l'a transportée, ce qui force le respect.
Men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you?
Quelques notes de Nat King Cole pour évoquer Mona Lisa, donc son voyage en 62-63. André Malraux en était particulièrement fier avec un symbole Louis Franck. Dans quel contexte ce déplacement et qu'est-ce que ça signifie, vous qui êtes l'un des deux commissaires de cette exposition, Léonard de Vinci?
Le déplacement de la Joconde, c'est sans doute à chaque fois un symbole, mais une petite remarque qu'on pourrait faire, on entend toujours dire de la Joconde que c'est une toile. Et cette manière métaphorique de parler de la peinture ne vaut pas du tout pour les périodes anciennes. Et la Joconde n'a jamais été une toile, c'est un panneau de bois. Ou alors, il est possible que le tableau qu'on ait envoyé aux États-Unis n'ait pas été
alors parce que
la bonne.
Hier, dans votre exposition, j'ai appris que la Joconde était fissurée. C'était un panneau, je crois, de peuplier. Il y a une fissure de 12 cm parce qu'elle était tout simplement dans une salle de bain.
Oui, elle a Vincent été du temps de François Ier, effectivement, le souverain, tous ses tableaux préférés, il les a installés dans l'appartement des bains du château de Fontainebleau, qui était un lieu absolument prestigieux et sublime, rempli de décorations, mais effectivement, pas tout à fait bienvenu pour la bonne conservation des œuvres. Et la Joconde, donc, c'est déformée, elle est, en fait, quand on la pose sur une table, elle est convexe, et puis surtout, il y a cette fissure terrible qu'on vérifie chaque année, et qui menace, en fait, le visage de la Joconde. C'est pour ça qu'on est hostile à tout déplacement, les vibrations et les chocs climatiques peuvent être absolument fatals pour la Joconde puisque la peinture se casserait en deux.
Et puis, il y a là aussi un vieillissement de la peinture. On découvre dans cette exposition que la Joconde n'a pas eu les couleurs qu'on lui voit aujourd'hui, que ses couleurs ont évolué, Vincent de Lieuvin?
Alors ça, ce sont les vernis de restauration qui ont été posés à travers la Villa Joconde et qui ont obscurci en fait les couleurs. Le ciel bleu, il est toujours en dessous. Hein, le lapis lazuli magnifique que Léonard a utilisé est toujours là. Ce sont les vernis qui se sont altérés, qui ont jauni et qui transforment donc les bleus en vert et puis qui obscurcissent aussi toute le merveilleux habit de la Joconde qui est fait en fait tout de transparence puisque la Joconde est recouverte d'un grand voile de soie qui est aujourd'hui devenu opaque, en fait.
Et alors, je ne sais pas si c'est traditionnel chez les peintres de cette époque, mais il y a une interrogation chez Vinci sur le corps humain, ses proportions. Sur le ciel bleu, ça a été l'une de ses grandes questions. Pourquoi le ciel est-il bleu, Vincent de Lieuvin? Louis Franck?
Oui, c'est une des explications scientifiques que Léonard a données, effectivement, celle du bleu du ciel. Mais c'est parce qu'effectivement c'est l'une des spécificités de Léonard qu'il n'est pas seulement un peintre mais qu'il se lance dans une enquête scientifique généralisée sur l'ensemble de l'univers sensible à partir des années 1480.
C'est un homme qui veut comprendre, qui théorise sa peinture. Il dit par exemple au sujet du portrait d'un musicien, un portrait célèbre je crois, 1484.
Oui, dans ces eaux-là.
Il évoque, je cite, « un corps qui présentera le plus grand contraste entre ses ombres et ses lumières, qui sera vu sous la lumière la plus forte. Il faut en peinture rarement employer ce procédé, car l'œuvre resterait dure et sans grâce. » C'est donc aussi un théoricien de la peinture, puisqu'on a beaucoup décrit de Léonard de Vinci, Vincent de Lieuvin.
Oui, tout à fait. Chez Léonard, il y a vraiment cette double approche. D'abord, c'est un grand praticien, vraiment quelqu'un qui, tout au long de sa vie, a cherché à perfectionner sa technique picturale avec une extraordinaire sensibilité pour le clair-obscur dès sa jeunesse. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu dire dans l'exposition. La première salle expose cette question du clair-obscur qui est la base, le fondement de tout art. Et puis, Léonard le défend vraiment la peinture et cette technique à travers ses écrits. Nous possédons aujourd'hui plus de 4000 feuilles de Léonard de Vinci et qui défendent en grande partie cette noblesse et cette peinture fondée sur cette science du clair-obscur.
Comme quoi on peut être à la fois théoricien et praticien et donc peindre, mais réussir aussi à avoir du recul sur ce qui doit être fait sur une peinture, Vincent de Lieuvin.
Oui, effectivement, c'était une grande ambition de cette époque-là, la Renaissance. Vous savez, la peinture n'était pas considérée toujours comme une véritable science et comme un art majeur par rapport notamment à la poésie. Et effectivement, Léonard est conscient et c'est quelqu'un qui veut justement réaffirmer le statut tout à fait singulier et intellectuel de la peinture. La peinture est une chose mentale, mais c'est aussi à travers la pratique, pratiquement l'égal de l'acte de Dieu. Dieu a créé la nature, le peintre, par son intelligence, par sa compréhension de la nature, la restitue dans sa peinture.
Vincent de Lieuvin, Louis Franck, on se retrouve dans quelques instants pour exprimer tout le ravissement qu'on peut avoir face à cette exposition Léonard de Vinci qui s'ouvre au Louvre. Vous serez rejoint par un écrivain, notre camarade Charles Dancy.